l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous.
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Présence à Cahors, 92.5.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Présence Midi, riche et varié, vous allez l'entendre. Nous commencerons avec Violaine Ricoud-Dumas, responsable du service communication du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Elle nous donnera des nouvelles du diocèse, notamment de la partie béarnaise, puisque Radio Présence ne couvre pas, malheureusement, le Pays Basque. Elle sera au micro de Gilles Galbardicia. Nous retrouverons ensuite Monseigneur Bertrand Lacombe, l'archevêque du diocèse d'Auch, au micro d'Anne-Rose Jankovic. À l'aube des vacances de la Toussaint, il reviendra sur une rentrée dense et riche en propositions pastorales. Puis Anne-Rose échangera avec Marion Planès et Guillaume Jaillet du mouvement des guides et scouts de France. Ils nous parleront de la pédagogie du scoutisme et d'une nouvelle proposition intitulée « Les audacieux » qui invite les jeunes à oser à s'engager autrement et à vivre pleinement les valeurs du mouvement. Et puis, comme chaque semaine, Anne Lasserre nous donnera envie de lire. Elle nous fera découvrir Anne-Marie Laringue, née en 1937 dans le Lavedan, entre Lourdes et Argelès-Gazost. Dans son livre, elle raconte sa jeunesse à Isacost, un récit plein de mémoire et de tendresse. On y recroisera d'ailleurs son frère Louis Laringue, bien connu à Toulouse puisqu'il fut le fondateur du SAMU. Vous l'avez compris, un magazine riche, ancré dans nos territoires et dans la vie de l'Église. Bienvenue dans Présence Midi. Et tout de suite, on fait un point sur l'actualité régionale avec les titres. Et pour cela, nous retrouvons Éric Leclerc.
Deux journées de grève à l'université Jean Jaurès à Toulouse. Les personnels et les enseignants mobilisés aujourd'hui ainsi que le 21 octobre pour dénoncer les coupes budgétaires, ce qui devrait entraîner des non-remplacements de postes. Ils demandent un financement plus important de l'université pour garantir sa gratuité. Après analyse par l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, les ossements retrouvés en août dernier dans les Pyrénées confirment qu'il s'agit du corps de Matteo Michel, disparu il y a 2 ans. Après une montée en août 2023 au pic du Loustou dans les Hautes-Pyrénées, l'enquête se poursuit pour connaître les causes de son décès. Adaptation du service des urgences pour les adultes au CHU de Toulouse en raison d'une tension temporaire sur les effectifs médicaux des urgences dans un contexte national de difficultés de recrutement sur cette spécialité. Le fonctionnement des urgences adultes de Purpan et Rangueil est adapté pour les mois de novembre et décembre.
Merci beaucoup Éric Leclerc. Bien sûr, le retour de l'actualité, ce sera tout à l'heure aux alentours de 12h30 avec le journal de la mi-journée. Allez, je vous entraîne dans un très beau diocèse, celui de Bayonne, Lescar et Oloron. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va s'occuper de la partie béarnaise. On retrouve pour cela Gilles Galbardi en compagnie de Violaine Ricoud-Dumas.
Présence à Pau, 96.
L'agenda des diocèses nous amène aujourd'hui à Bayonne avec Violaine Ricourt-Dumas que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Violaine. Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Vous êtes la responsable de la communication pour le diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron. On va détailler une partie de l'agenda de votre diocèse. Et pour commencer, on signale aujourd'hui cette journée de formation à Belloc sur la pastorale de la santé.
Oui, c'est le service de la pastorale de santé qui propose chaque année une journée de formation. Cette année, elle est en comité un peu restreint puisque c'est à destination des responsables d'aumônerie, prêtres intervenants avec un ou deux membres de leur équipe d'aumônerie, puisque vous le savez, dans les établissements de santé, il y a des aumôneries qui permettent de suivre les malades, de les accompagner. Cette journée donc de la pastorale de la santé, c'est aujourd'hui toute la journée à l'abbaye de Belloc. Ils se forment sur la mission de l'aumônerie, quel est le cadre réglementaire pour cette mission à l'aumônerie, donc des établissements de santé.
On poursuit cet agenda avec ce webinaire, toujours aujourd'hui, c'est avec le service diocésain, avec le junaïsme, ce sont des lectures croisées des évangiles.
À peu près une fois par mois, le service diocésain de relations avec le judaïsme nous propose ces webinaires, donc formation en visioconférence. Il faut se connecter sur un lien que vous trouvez sur le site du diocèse. Donc à la date d'aujourd'hui, ce sera à 16h30 et on étudie l'évangile de Luc, donc avec les tout derniers versets du chapitre 4 pour donc découvrir la Bible avec le regard chrétien et le regard juif. C'est toujours très intéressant d'avoir ce regard croisé. Donc un lien Zoom qui est donné sur le site du diocèse à l'agenda du 16 octobre donc pour ce webinaire proposé par le service diocésain de relations avec le judaïsme.
Dans cet agenda, on va ouvrir maintenant une page formation permanente avec le Béarn et on commence avec un événement à Morlas, c'est aujourd'hui. Hein.
Oui, beaucoup de propositions par la formation permanente du Béarn qui commence ces jours-ci, des formations qui sont après sur plusieurs séances, à peu près une fois par mois. C'est mieux donc de les faire en entier. Donc vous pouvez commencer à Morlas, la lecture priante de l'évangile selon Saint Matthieu. C'est de 18h à 20h et donc la première séance est ce soir. Et après, la suivante sera le 20 novembre, puis le 18 décembre. Et chaque mois, il y a donc ce moment de formation, de lecture priante, Lectio Divina, pour découvrir ou redécouvrir l'évangile de l'année liturgique de cette année, donc de Saint Matthieu. Ce sera avec Anne Duteil, donc à la maison paroissiale de Morlas, juste au nord-est de Pau.
On poursuit avec les jeudis du Concile Vatican II.
Alors cette fois-ci, c'est une approche de la constitution dogmatique Dei Verbum du Concile Vatican II qui nous parle de la révélation divine. C'est le père Michel Leclerc qui va nous enseigner cette constitution dogmatique. Ce sera donc les jeudis de 18h30 à 20h et donc ça commence aujourd'hui également. Ça se passe au centre diocésain du Béarn à Pau qui est pour l'instant toujours 36 avenue de l'église Saint-Joseph avant un prochain déménagement. Mais pour l'instant, c'est bien toujours là que ça se passe, donc à 18h30 pour découvrir ou redécouvrir le Concile Vatican II et plus précisément la constitution Dei Verbum.
On reste à Pau avec cette lecture priante selon Saint Jean.
Voilà, cette fois-ci c'est selon Saint Jean, toujours lecture priante, Lectio Divina, qui se passe au centre diocésain du Béarn à Pau, avec Marilyn Silière, qui est la responsable adjointe de la formation permanente du Béarn. Cette fois-ci c'est à partir de demain. Alors il y a déjà eu une première séance, mais vous pouvez toujours revenir à la deuxième demain, de 9h30 à 11h30, pour une Lectio Divina sur l'évangile selon Saint Jean.
On poursuit avec cette veillée de prière par l'Emmanuel, c'est toujours à Pau, c'est demain soir.
C'est chaque mois, là aussi, une veillée de prière proposée depuis de nombreuses années maintenant par la communauté de l'Emmanuel et la paroisse de la Sainte Famille. C'est un rendez-vous pour prier ensemble le vendredi soir. C'est de 19h à 20h30, ça se passe à l'église Sainte-Bernadette de Pau. Cette année, on va venir plonger dans la tendresse de Dieu, veillée de prière donc avec la communauté de l'Emmanuel à partir de 19h, donc à partir pour demain soir. Et puis les suivantes seront annoncées également, donc 12 décembre, 9 janvier, 13 mars, etc. On en reparlera bien sûr.
Je rappelle qu'avec vous, Vianne-Henri Courdumas, en détail l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron, l'agenda à Béarnais. On poursuit avec ce pèlerinage entre Montaut et Lourdes. Montaut, c'est à quelques dizaines de kilomètres de Lourdes en direction de Pau.
Tout à fait, c'est nouveau, c'est la première édition de ce pèlerinage traditionnel, donc des personnes de la tradition qui viennent pèleriner tout le week-end, donc à partir de Montaut et jusqu'à Lourdes. Il y aura des veillées, des temps d'adoration, de bivouac et de marche entre Montaut et Lourdes. Donc pour cette année jubilaire, ce pèlerinage s'intitule Arrêt Bastir. Là aussi, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site du diocèse à la date du 18-19 octobre, donc pour ce week-end de pèlerinage, 16 km entre Montaut et Lourdes avec les personnes de la tradition, donc pour ce pèlerinage proposé pour la première année.
Pas très loin de Montaut, il y a la commune de Naïs qui nous amène à parler des béatitudes et qui sont à Naïs. Ils nous proposent une marche et prière, c'est la semaine prochaine je crois.
Tout à fait, puisque ce sont les vacances scolaires, s'il y en a qui peuvent prendre une semaine pour venir marcher et prier avec la communauté des Béatitudes, c'est de lundi à dimanche prochain, donc la communauté des Béatitudes qui vous propose de randonner dans la vallée d'Ossau, dans le Val d'Azun, voire un peu plus loin. Après, on dort au foyer de Naï tous les soirs, mais chaque jour, on va marcher accompagné par la communauté des Béatitudes. Il faut compter des trajets d'une heure à une heure et demie pour aller en voiture à chaque fois au point de départ de la randonnée. Et puis sinon, la randonnée, c'est toute la journée. Ce sera toute la semaine prochaine. N'hésitez pas, là aussi, à vous inscrire, même en dernière minute, sur le site de la communauté des Béatitudes de Naï, ou alors un contact accueilbéatitudes au pluriel naï@gmail.com ou un numéro de téléphone 07 66 84 10 83 que vous pouvez retrouver toujours sur le site du diocèse 64.
Et enfin, on termine cet agenda avec la prière itinérante qui est de retour. Ça va se passer la semaine prochaine, mardi, à l'église protestante.
Chaque mois, les différentes confessions des églises de Pau se retrouvent pour prier ensemble. Ça se passe dans une église différente à chaque fois. Et donc, mardi prochain, ce sera à l'église protestante réformée, c'est-à-dire le temple, qui se trouve 21 bis rue Serviez à Pau. C'est à partir de 19h où on répète les chants ensemble. Ensuite, il y a la prière à proprement dit à 19h30. Et à 20h30, on partage un repas fraternel. C'est toujours une belle occasion de se retrouver entre différentes confessions chrétiennes. Donc pour cette prière œcuménique itinérante, c'est mardi prochain à Pau.
Voilà, et c'est là-dessus qu'on va refermer cet agenda. L'agenda donc du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Toutes ces informations, on les retrouve sur diocèse64.org. C'est le site internet du diocèse. Moi, je vais vous remercier, Violaine Ricourt-Dumas. Je vous souhaite une excellente journée à Bayonne. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel agenda.
Merci beaucoup. Bonne semaine à vous aussi.
Merci également à Gilles Galvardi d'avoir fait cette interview avec donc Violaine Ricourt-Dumas. On va continuer dans quelques instants, on va juste changer de diocèse. Après Bayonne, Escarolles, nous partons dans ce beau département du Gers et on retrouve donc Monseigneur Lacombe pour le diocèse d'Auch. Après avoir écouté Sanglia Gratuite, un groupe qui est né du côté de Tarbes.
Présence à Lannemezan 92.2.
Comme une veille de finale, où le sommeil déraille, quelque chose d'indécis qui rallonge la nuit. Tu me souris un peu, et soudain ça va mieux. C'est bien ancré en moi, j'ai fait mon choix. Tu me fais perdre la tête, je ne suis plus tout à fait moi. Il y a comme un air de fête, j'ai rendez-vous avec toi. Tu me fais perdre la tête, je ne suis plus tout à fait moi. Comme un air de fête, j'ai rendez-vous avec toi. Dans mon écrin douillet, où j'aimais me cacher, je t'ai vu sans remords, percer mon coffre-fort, sans aile et sans dessin. Emporter le butin du défi dans la voie, Sésame pour toi. Tu me fais perdre la tête. Il y a comme un air de fête, j'ai rendez-vous avec toi. Tu me fais perdre la tête, je ne suis plus tout à fait moi. Il y a comme un air de fête, j'ai rendez-vous avec toi. Tu me fais perdre la tête, je ne suis plus tout à fait moi. Il y a comme un air de fête, j'ai rendez-vous avec toi.
fête. Je ne suis plus tout à fait moi. Il y a comme un air de fête, j'ai rendez-vous avec toi. Tu me fais perdre la tête. Je ne suis plus tout à fait moi. Il y a comme un air de fête, j'ai rendez-vous avec toi.
Ils sont de chez nous, ce groupe Boulevard Désert.
À Auch, 89.6.
Bonjour Monseigneur Bertrand Lacombe.
Bonjour Anne-Rose et bonjour aux auditeurs de Radio Présence.
On vous retrouve cette semaine encore pour parler de votre diocèse du Gers, puisque nous étions déjà avec vous la semaine passée. Et l'agenda dans le diocèse du Gers est bien chargé. Il s'est passé beaucoup de choses au mois de septembre pour la rentrée. Et puis ça continue à l'aube des vacances de la Toussaint, les premières vacances scolaires de cette période. Eh bien, il y a encore pas mal de choses à dire. Et justement, on va parler un petit peu de toute la période de rentrée que nous venons de vivre. On parle beaucoup des écoles, mais il n'y a pas que les écoles. Il y a notamment les enfants du caté aussi qui ont fait leur rentrée durant le mois de septembre et ou octobre.
Oui, vraiment, tout le monde fait sa rentrée et c'est vrai qu'il faut bien cette période qui commence de la fin août jusqu'à la fin octobre, qui est ce chapelet de rentrée que chacun vit d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai que pour la catéchèse et la pastorale des jeunes, on l'a vécu particulièrement le samedi 4 octobre, fête de la Saint-François, avec vraiment un beau moment de formation, donc avec les catéchistes, avec les animateurs d'aumônerie, avec les animateurs en pastorale scolaire dans l'enseignement catholique, autour de Dilexit Nos, donc l'encyclique du pape François sur le Sacré-Cœur qui se poursuit avec le premier grand texte de Léon XIV. Voilà, autour de l'amour de Jésus, du débordement d'amour du cœur de Jésus, avec le matin des interventions plus générales, avec une intervention théologique du père Guillaume, une intervention plus anthropologique du père Nestor. Et l'après-midi, on était d'un côté la catéchèse, avec plusieurs présentations, mais je pense notamment avec la présentation de la petite maison de Bernadette. Voilà, et donc une équipe est venue de Lourdes pour nous le présenter. Nous ferons des travaux pratiques. Je vais y revenir sur notre rassemblement en famille à Lourdes. Donc ça a été vraiment un beau moment. Et puis moi j'étais avec la pastorale des jeunes et aussi des tas d'idées, d'animation, de jeux. J'ai eu un petit moment aussi d'animation autour des vocations. Comment avoir une parole ajustée sur les vocations, c'est-à-dire ni trop ni trop peu, de pas avoir l'impression qu'on est comme les sergents recruteurs qui doivent vraiment faire entrer, mais
il faut quand même oser demander.
Mais voilà, il faut oser demander, puis souvent donner des petits signes. Présence d'un religieux, d'une religieuse, d'un prêtre, d'un laïc qui dit combien il a reçu de la vie consacrée. Enfin, voilà. Donc nous avons eu ce beau moment. À la fois de voir comment ce Sacré-Cœur de Jésus vient irriguer notre cœur à nous, et puis voilà comment concrètement aussi on peut se servir de, on peut avoir des idées et les mettre en pratique dans nos groupes de caté et de pastorale des jeunes.
Qu'est-ce que les responsables de ces groupes, alors que ce soit auprès des collégiens, des lycéens ou des enfants plus petits au niveau de la catéchèse, qu'est-ce que vous sentez de leur motivation, peut-être des défis qu'ils ont à relever, qu'ils se donnent à relever pour cette année? Est-ce qu'ils vous remontent un petit peu leurs perspectives et leurs inquiétudes, s'ils en ont?
Oui, alors, il ne faut pas regarder que les effectifs, mais c'est vrai que ça compte, que ça nous encourage. Donc il y a des lieux où on est un peu plus inquiet parce qu'on se dit il y a peut-être un peu moins de jeunes, mais il faut pouvoir prendre les choses autrement. On est dans notre système scolaire où on a tel âge, on est dans quelle classe, on comprend peut-être parce qu'on pourrait aussi peut-être faire des choses plus nouvelles et plus intéressantes au niveau de l'enseignement. Mais en ce qui concerne la catéchèse, on peut très bien mettre des enfants d'âge différents dans le même groupe et permettre, parce qu'ils sont dans le même village ou parce qu'ils sont dans un voisinage assez proche, de se retrouver ensemble. Et dès qu'on arrive et qu'on pense à faire un peu différemment, on peut vraiment faire de belles choses. Et j'ai pu le voir pendant les visites pastorales des groupes qui se retrouvent régulièrement d'âges différents. On peut prévoir aussi des activités un peu différentes selon les âges. Et donc, il y a vraiment de belles propositions qui sont faites, et de même pour l'aumônerie, de voir comment. Ce qui est important, c'est de se rassembler. Quoi.
Se rassembler peut-être aussi en paroisse ou en diocèse, parce que peut-être qu'on a parfois la tendance à rassembler les jeunes avec les jeunes, les enfants avec les enfants. Alors, ça répond certainement à un besoin, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois besoin que tout le monde se mélange et de susciter des moments entre les gens de la paroisse, la communauté paroissiale dans son ensemble, avec les plus petits et les plus jeunes?
Bien oui, je vais avoir la joie de participer au jubilé du synode avec l'équipe synodale diocésaine, et donc voilà, c'est cette perspective qui est là, hein, c'est ce qui est recommandé, d'assembler paroissiale, comme nous avons eu cette assemblée synodale le 6 septembre avec des témoignages de jeunes qui ont vraiment beaucoup marqué ceux qui étaient plus aînés et qui étaient là, et puis ce que nous allons vivre vraiment très concrètement grâce à Lourdes, c'est notre pèlerinage en famille à Lourdes du 11 avril, et voilà, là c'est vraiment un pèlerinage intergénération avec des enfants, des jeunes, des fiancés, des parents, des grands-parents.
Voilà, ça c'est une des deux dates importantes de l'année. On finit quand même sur le chapitre rentrée scolaire. Il y a eu, enfin vous l'avez évoqué, il y a aussi eu toute la rentrée de l'enseignement catholique. Là, on peut quand même en profiter pour encore une fois tirer un coup de chapeau aux chefs d'établissement, hein, qui se mobilisent, qui font leur rentrée dès la fin août pour que les élèves soient bien dans leur établissement.
Oui, et puis c'est vraiment nos deux diocèses aussi qui œuvrent ensemble. On s'est retrouvés à Notre-Dame de Garaison pour la messe de rentrée des chefs d'établissement, qui a vraiment été un bon moment de travail, mais aussi de prière. Il y a eu les messes de rentrée dans chacun de nos diocèses, à la cathédrale à Auch et puis un peu plus tard à la cathédrale à Tarbes. Et puis ce qui a été vécu aussi dans les établissements, avec les communautés éducatives. C'est vrai que c'est des moments qui comptent, avec des choses difficiles qui ne tiennent pas aux chefs d'établissement ou aux communautés éducatives, qui sont la question des effectifs. Hein, et donc là, on fait attention. C'est vrai pour toute l'éducation nationale, mais on est aussi préoccupé par cette question-là. Mais on sait qu'on a une belle proposition éducative, et donc on s'encourage. Et puis pour cela, à Lourdes, le 20 et 21 octobre, les chefs d'établissement sont invités à un temps de récollection avec Don Nicolas, qui est du service de la pastorale des jeunes et des enfants, qui va nous enseigner et qui va permettre de vivre une démarche jubilaire pour les chefs d'établissement. Alors, souvent, les établissements vont à Lourdes pour vivre une démarche jubilaire, pour permettre aux jeunes de vivre cette démarche jubilaire. Mais je suis heureux, moi, de j'y serai aussi à ce moment-là, qu'on puisse, ensemble, avec les chefs d'établissement, vivre ce moment-là, bien accompagné, bien prêché. L'année dernière, à Auch, on avait eu le séminaire très intéressant sur l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Et cette année, on garde toujours ces questions qui sont importantes. Mais cette année, une proposition pour l'ensemble des chefs d'établissement, donc de récollection. Un moment fort aussi, ça paraît un peu administratif, mais ça compte, nous avons eu un CODIEC commun.
Qu'est-ce que c'est un CODIEC ?
C'est le conseil de l'enseignement, le conseil diocésain de l'enseignement catholique, qui normalement se fait au niveau du diocèse, mais compte tenu de nos liens, là, on a proposé un premier CODIEC commun. Donc ça a été aussi un beau moment de se retrouver avec les OGEC, avec les appels. OGEC, c'est les organismes de gestion, les appels, c'est les associations de parents d'élèves, avec les syndicats aussi qui sont présents. Donc on a eu une belle rencontre avec Mgr Mika et tous ceux qui font partie de ce conseil qui a été là. Et puis, je termine sur l'enseignement catholique en disant que l'association Lomagne, qui est propriétaire de l'enseignement catholique, a eu l'idée de contacter la Fondation Saint-Mathieu au niveau national, et nous allons avoir une Fondation Saint-Mathieu au niveau diocésain pour le Gers, qui permettra de collecter de l'argent pour entretenir nos établissements. C'est indispensable. Il y a des fois où on regarde le quotidien. Évidemment, c'est très important. Mais il faut pouvoir investir. Il faut pouvoir avoir des locaux qui correspondent au nombre des élèves que nous accordons. Et donc, je me réjouis qu'on puisse avoir cette manière d'avoir davantage de moyens et que je remercie aussi tous les généreux donateurs qui vont nous aider à faire en sorte que les enfants et les jeunes qui nous sont confiés puissent travailler dans les meilleures conditions à travers cette Fondation Saint-Mathieu-Gers.
Voilà donc pour tout ce bloc rentré avec ces moments importants liés à l'enseignement catholique. Alors, il y a deux dates, alors, il y a beaucoup de dates dans l'agenda du diocèse du Gers, mais vous avez évoqué le pèlerinage en famille à Lourdes qui aura lieu au mois d'avril. Il y aura un autre moment important dans l'année, c'est le Triduum pour clôturer l'année jubilaire.
Voilà, nous sommes toujours pèlerins d'espérance et il y aura bien sûr le Triduum pascal, temps fort, le temps le plus important de l'année liturgique, mais nous en ferons un aussi fin janvier, début février. Nous avions vécu des beaux moments avec la venue du cardinal Bustillo l'année dernière, et cette année aussi, à cette période de l'année, le samedi 31 janvier au soir, à 20h à la cathédrale à Auch, ça sera la clôture du jubilé, mais je dis clôture en voie, parce que c'est pas qu'une clôture, on est envoyé aussi, et on va vivre ça avec les jeunes, donc ça doit être un beau moment ensemble, le samedi 31 janvier à 20h à la cathédrale à Auch. Le lendemain, veille de la journée de la vie consacrée, à 17h à Auch, le samedi 1er février, des vêpres déployées avec la vie consacrée. On a la chance d'avoir de nombreux consacrés et religieuses et religieux dans le diocèse, donc on aura un temps de prière des vêpres dans le grand cœur de la cathédrale, qui je crois vraiment sera aussi un très très beau moment. Mais il ne faut pas tout faire au niveau diocésain, donc le 2 février au matin, une messe à la chandelle qui sera proposée dans les paroisses pour cette fête de la présentation de Jésus au temple et aussi la fête de la vie consacrée. Donc un beau triduum jubilaire fin janvier, début février, pour que nous puissions, pèlerins d'espérance, être encouragés toujours à être en sortie sur les terres d'espérance.
Voilà, et bien les rendez-vous sont nombreux dans le diocèse du Gers, Monseigneur Bertrand Lacombe. Voilà, c'est toutes les informations que vous avez données. On peut les retrouver sur le site du diocèse et puis dans le magazine Église qui vit. C'est un petit journal qui raconte la vie du diocèse, donc ce que vous nous avez dit aujourd'hui et puis beaucoup d'autres choses encore.
Alors que ce soit le magazine qui paraît tous les deux mois ou que ce soit la newsletter qui paraît toutes les semaines, tout cela sera relayé, bien sûr.
Merci beaucoup, Monseigneur Bertrand Lacombe. À très bientôt sur les ondes de Radio Présence.
À très bientôt. Merci, Anne-Rose. Merci à nos auditeurs.
Présence dans la Cité Mariale, 96.
Un grand merci, effectivement, à Anne-Rose Jankovic. Anne-Rose qui va rester avec nous, puisqu'elle sera dans un instant avec Marion Planès et Guillaume Jaillet. Ils vont nous parler d'un mouvement guidé Scout de France et même d'une proposition qui s'appelle les Audacieux. Juste après, bien sûr, avoir fait un point sur l'actualité. Et pour cela, nous retrouvons Éric Leclerc. Bonjour, Éric.
Bonjour, deux journées de grève à l'université Jean Jaurès à Toulouse. Les personnels et les enseignants mobilisés aujourd'hui ainsi que le 21 octobre pour dénoncer les coupes budgétaires, ce qui devrait entraîner des non-remplacements de postes. Ils demandent un financement plus important à de l'université pour garantir sa gratuité. Après analyse par l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, les ossements retrouvés en août dernier dans les Pyrénées confirment qu'il s'agit du corps de Matteo Michel, disparu il y a 2 ans. Après une montée en août 2023 au pic du Lustou dans les Hautes-Pyrénées, l'enquête se poursuit pour connaître les causes de son décès. Adaptation du service des urgences pour les adultes au CHU de Toulouse en raison d'une tension temporaire sur les effectifs médicaux des urgences dans un contexte national de difficultés de recrutement sur cette spécialité. Le fonctionnement des urgences adultes de Purpan et Rangueil est adapté pour les mois de novembre et décembre. L'activité des urgences adultes est recentrée sur les zones d'admission et de prise en charge des patients nécessitant des soins hospitaliers ou une hospitalisation. L'accueil des patients est renforcé accès avec un infirmier d'accueil et d'orientation supplémentaire. Ainsi, les patients ne nécessitant pas de prise en charge aux urgences seront réorientés vers un médecin de ville ou une structure adaptée en lien avec le service d'accès aux soins. Les locaux habituellement dédiés aux soins ambulatoires sont temporairement utilisés en espace d'attente pour les patients en cours de sortie vers leur domicile ou en attente d'une hospitalisation. Mesures de gestion et de restriction des usages de l'eau en Haute-Garonne depuis hier, avec le retour d'un temps sec et de températures plus élevées cette semaine. Une reprise du tarissement des cours d'eau est attendue et la vigilance reste de mise. La situation reste fragile sur les petits cours d'eau non réalimentés, en particulier sur le Volpe, dont le débit est repassé sur le seuil de la crise, nécessitant d'interdire à nouveau les prélèvements. Ces nouvelles mesures de gestion et de restriction des usages de l'eau sont consultables sur Vigio. .gouv.fr. La journée de sensibilisation et de solidarité contre le cancer du sein se déroulera dimanche 19 octobre au lac de Lourdes, combinant sport, prévention et convivialité. Tout au long de la journée, la Ligue contre le cancer 65 proposera la vente de goodies au profit de la campagne Octobre Rose. La journée débutera par une série d'épreuves sportives ouvertes à tous. L'après-midi transformera les abords du lac en véritable village de santé. Le point fort de cette programmation sera la présence du camion préventif qui permettra aux visiteurs de prendre rendez-vous pour différents dépistages. Cette initiative répond directement aux objectifs d'Octobre Rose en facilitant l'accès aux examens de dépistage.
Merci beaucoup.
La météo.
Merci beaucoup Eric Leclerc pour le journal de la mi-journée. On retrouvera l'actualité à 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Anne Rose a quitté l'Auche pour revenir dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes puisque maintenant elle va s'entretenir avec Marion Planès et Guillaume Jaillet. Elle est avec le mouvement des guides et scouts de France et elle va nous parler particulièrement d'une nouvelle proposition qu'ils vont faire qui s'appelle les Audacieux.
Présence à Aix-les-Thermes, 92.7.
Aujourd'hui, au micro de Radio Présence, j'accueille Marion Planès et Guillaume Jaillet. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Avec vous, nous allons parler du mouvement des guides et scouts de France. Vous êtes engagés l'un et l'autre dans ce mouvement. Vous allez en particulier nous parler d'une nouvelle proposition qui s'appelle les Audacieux. Vous allez nous dire dans quelques minutes de quoi il s'agit exactement. Mais d'abord, on va rappeler ce qu'est la pédagogie du scoutisme. On a reçu au micro de Radio Présence, pour tout vous dire, il y a quelques jours, le mouvement des guides et scouts d'Europe. On a évoqué la figure de Baden-Powell. Je crois que le mouvement des guides et scouts de France s'en inspire aussi. Mais quelle est la pédagogie que vous déployez après sur le terrain ?
Oui, alors je rectifie, c'est les scouts et guides de France. Voilà, et les guides et scouts d'Europe. C'est notre petite différence avec eux.
C'est important.
C'est très important. Non, pas forcément très important. En effet, on a la figure de Baden-Powell qui a monté le scoutisme il y a plus de 100 ans. On est sur le même... la même lignée avec une méthode scout qui est très importante avec 8 points très importants. Nous, les scouts et guides de France, nous sommes un mouvement catholique d'éducation populaire et dont notre objectif est de former des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. On a toute une pédagogie autour de la vie dans la nature, le vivre ensemble, qui est un aspect très important de notre projet éducatif, tout ce qui est faire des hommes et des femmes engagés dans la société et qu'ils soient utiles et artisans de paix.
La fraternité et la citoyenneté aussi.
Exactement.
Vous accueillez les enfants dès l'âge de 8 ans, 7 ans, 8 ans ?
6 ans.
6 ans. Voilà. Ce qu'on appelle les farfadets.
Exactement, c'est ça.
Et après, ils grandissent au sein du mouvement. Enfin, comment se passe l'évolution ? Un enfant qui arrive comme farfadet, après, qu'est-ce qu'on lui propose au fil des années ? Parce que l'enfant grandit.
Alors, l'enfant grandit, c'est pour ça qu'on accompagne donc les farfadets. Après, vous avez les louveteaux et Jeannette, qui est la couleur orange. Et après, on passe sur la couleur bleue, donc les scouts. Et scouts et guides, et après la couleur rouge, les 14-17 ans, on est sur les pionniers et caravelles.
Et oui, les compagnons, Marion. Et les compagnons à partir de 17 ans. Donc, on accueille jusqu'à 21 ans.
Donc, voilà. L'enfance et puis toute l'adolescence, le mouvement est là pour proposer une pédagogie.
Complète de 6 ans à 21 ans.
Oui, et puis après être recruté pour rendre service comme vous vous faites aujourd'hui.
Exactement.
Alors, qu'est-ce qui fait que ce mouvement, il intéresse les jeunes, qu'il répond à un besoin, des propositions pour les jeunes, il y en a plein. Alors, le sport notamment, mais enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres mouvements ou associations qui proposent d'occuper nos jeunes. Qu'est-ce qui fait que le mouvement des guides des scouts de France, ou l'inverse, trouve sa place dans tout ce panel de propositions?
Alors, je pense qu'il y a vraiment un sentiment d'utilité pour nos jeunes, c'est-à-dire qu'on leur permet de prendre part dans une vie d'équipe, dans une vie d'unité, donc avec leur père, et d'avoir un rôle, une mission. Et ça, pour eux, c'est très important. Ça leur permet de gagner confiance en eux. Mmh. On l'a vu d'ailleurs, il y a un sondage IFOP qui a été demandé en 2024, qui a montré un vrai engouement pour le scoutisme et qui a montré que les anciens scouts avaient tendance à être plus engagés dans la société. Voilà, c'est quelque chose qu'on repère aujourd'hui, qu'on peut mesurer, que le scoutisme et le guidisme a vraiment une plus-value pour notre société et une société plus engagée et plus altruiste.
Quand on pense au scoutisme, on pense à la notion d'engagement, de respect, de règles, de cadre. Ce sont des mots qui n'ont pas forcément bonne presse. Ça marche encore aujourd'hui avec les jeunes? Vous êtes témoin que ça marche quand même quand on propose un cadre et des règles et des engagements aux jeunes. Oui, ils répondent, ils sont là.
Parce qu'on est, alors on a un cadre, mais on a un cadre qui est dans un environnement sain, ludique, tolérant, bienveillant, pas de jugement sur d'où tu viens, ce que tu fais, tes parents. On est vraiment sous totale bienveillance. Et donc ça permet de dédramatiser, on va dire, le côté cadre du mouvement.
Mmh. Alors, vous m'avez sollicité, enfin en tous les cas, vous m'avez interpellé il y a quelques jours, en me parlant d'un groupe, le groupe des Audacieux. Donc c'est une des propositions que vous faites au sein de votre mouvement, ici dans les Hautes-Pyrénées. Qu'est-ce que c'est que ce groupe des Audacieux? Qu'est-ce qu'il y a derrière, Guillaume?
Alors, les Audacieux, c'est un groupe, ça serait une pour monter une cordée, comme on appelle ça, pour les personnes majeures avec un handicap mental. Donc uniquement pour les personnes majeures qui ont un handicap mental, qui on appellerait donc les audacieux, et l'ensemble de ces audacieux s'appellerait donc une cordée.
Donc ça c'est nouveau, et l'idée c'est de leur faire une place dans le groupe qui existe déjà dans les Hautes-Pyrénées avec vous.
Je crois qu'on est sur ce côté tolérant, bienveillant qu'on parlait tout à l'heure.
Oui.
À partir du moment où ce serait une autre branche, mais ça ferait vraiment partie du groupe.
Donc avec la même pédagogie?
Alors on reste sur la même base pédagogique du scoutisme. Après, quelque part, on s'adapte sans s'adapter, puisque c'est des gens qui seront partie intègre du mouvement. Donc on reste vraiment sur la même base du scoutisme.
Et donc, ça, c'est pour répondre à une attente, à un besoin qui a été formulé, ou eh bien, pour vous, ça fait partie de l'évolution normale du mouvement de proposer aussi à ces jeunes en situation de handicap de trouver leur place dans le scoutisme?
Alors, je crois que la demande, surtout enfin, dans le Nord, dans certaines régions de la France, il y a des groupes d'audacieux qui ont déjà été mis en place. Nous, dans le Sud-Ouest, on est un peu pauvres dans cette branche-là. Donc il y a de l'attente, il y a une envie, et puis il y a surtout, je crois, une ouverture d'esprit davantage aujourd'hui sur le handicap.
Oui.
Qui nous touche, qui vous touche, qui permet aux jeunes aussi de s'ouvrir un peu plus sur le monde, ne pas rester renfermé sur des jeunes normaux, mais pouvoir s'ouvrir à des personnes en situation de handicap, petite ou grande. Et comme le scoutisme, encore une fois, on est sur de la tolérance, de la bienveillance, de l'acceptation des autres, l'acceptation de soi-même aussi. Cette branche n'est que la bienvenue dans le groupe de Tarbes.
Ce scoutisme pour personnes adultes en situation de handicap et intellectuelles, il est réservé à cette branche-là. C'est-à-dire que c'est une unité, ça peut être 3, 6 adultes, en fait, en situation de handicap, qui seront
quand je dis des jeunes, donc des grands jeunes.
Des grands jeunes, oui. Plus ou moins jeunes, on est tous un peu plus ou moins jeunes. qui seront accompagnés de coéquipiers. Donc ces coéquipiers, ce seront des adultes qui sont en fait des chefs et des cheftaines. Mais on les appelle
pour faire des sortes de binômes.
Des sortes de binômes ou de trinômes avec deux audacieux pour un coéquipier. Voilà, c'est vraiment c'est la méthode scout, le soutien adulte. Voilà, du scoutisme entre adultes.
Et ça a déjà démarré ici chez nous dans les Hautes-Pyrénées ou c'est en train de démarrer?
C'est en train.
On est vraiment en train de créer la base de la base. C'est les fondations primaires.
Alors moi, ce qui m'intéresse chez l'un et l'autre, c'est pourquoi le scoutisme vous intéresse et pourquoi il vous intéresse dans ce cadre-là. Qu'est-ce qui vous attire? En quoi vous vous sentez l'un et l'autre appelés à servir les jeunes et puis ces jeunes adultes qui sont en situation de handicap? Guillaume?
Alors moi j'ai eu la chance de faire partie du groupe Pierre Labatte pendant beaucoup beaucoup de temps, donc j'étais le scout, pio, compas, et ensuite j'étais chef louveteau, chef pio, accompagnateur pédagogique compas, et donc j'avais mis un peu de cette ville en stand-by, et je reviens sur Tarbes pour une reconversion professionnelle pour intégrer une école d'aide-soignant l'année prochaine. Et
donc vous avez une sensibilité à ça.
J'ai eu Marion au téléphone qui me dit si tu veux, on monte cette branche-là. Et comme ça correspondait exactement pour mes futures études ou mon futur avenir professionnel, c'était parfait. On est tombé plutôt au bon moment.
Et vous, Marion, alors vous êtes la responsable de ce groupe, hein, Pierre Labatte. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué le nom. Qu'est-ce qui fait que vous êtes comme un poisson dans l'eau dans le scoutisme et dans cette proposition avec les audacieux?
Exactement. Alors moi, la proposition audacieux, elle a été refondée là il y a quelque temps. Elle existe depuis longtemps, mais en effet, elle est absente de notre territoire. On serait le premier groupe à l'ouvrir dans le Sud-Ouest. Mais j'ai été cheftaine vent du large. Donc c'était l'ancienne proposition pédagogique sur un camp d'été qui m'a marquée lorsque j'avais 17 ans. Et ce camp m'a vraiment ébloui et permis de m'ouvrir au handicap. Voilà, montrer que une diversité et que l'individualité de chacun est une force aussi pour même un groupe. Et moi, ayant découvert le scoutisme, voilà, en étant Jeannette, voilà, les 8-11 ans, c'est aussi aujourd'hui ce qui me fait vivre. Voilà, ça me fait vibrer, c'est ce qui me permet de m'épanouir, de gagner confiance en moi, de permettre de partager cet engagement dans la société qui pour moi est très important dans une société où on est un petit peu de plus en plus individuel et on a besoin de se donner à l'autre. Je trouve que c'est une force.
C'est vrai, je rebondis sur ce que dit Marion. Le scoutisme aussi, on a une notion de service.
Ouais.
Un petit peu de service de soi, service à la société, service de son prochain. Donc on est vraiment, encore une fois, je parle de ce côté bienveillant, tolérant, mais aussi donner le don de soi pour récolter, être fier, se rendre fier vis-à-vis de la société et du mouvement scout.
C'est ça qui est intéressant dans cet engagement, c'est qu'à la fois il s'agit de prendre soin de la personne qui est unique et qui a besoin de grandir et peut-être d'être accompagnée dans son éducation, dans son évolution, et puis en même temps prendre soin du groupe. En fait, on se rend compte en vous écoutant que quand on prend soin de chacune des personnes, on prend soin de l'ensemble du groupe. Alors c'est vrai aussi pour les audacieux, du coup.
Exactement. Après, c'est vrai que les audacieux, on est vraiment sur les bases du projet. Donc on va le construire au fur et à mesure, petit à petit.
De quoi vous avez besoin pour que le projet avance et voit le jour concrètement?
Là qu'on en parle, déjà c'est une force parce que ça va pouvoir nous rendre visibles, savoir qu'il y a un groupe qui se monte à Tarbes, qui est prêt à accueillir parce que nous avons des coéquipiers, donc nous avons des adultes qui sont
Des adultes qui sont formés, préparés,
qui sont préparés. Voilà, Guillaume a passé l'aide à la prise de fonction déjà.
C'est obligatoire. C'est important obligatoire. De le dire quand même ce côté.
Nous avons des formations qui sont obligatoires. On parlait tout à l'heure de bientraitance, de bienveillance. Nous, les Scouts et Guides de France, on est dans l'obligation de suivre des formations en lien avec la bientraitance. Donc, Guillaume est formé, une partie de notre équipe est formée à accueillir ces audacieux et audacieuses. Donc, il nous manque plus que de se faire connaître, que les jeunes et moins jeunes viennent à nous.
Alors, en préparant cette émission, je vous disais, c'est formidable, on pourra aussi en profiter pour faire un appel pour que des enfants vous rejoignent. Ils m'avaient dit, mais des enfants, on en a plein. Il y en a même sur liste d'attente, mais surtout, on a besoin d'aide. Donc, pour ce groupe des audacieux, le mouvement a besoin d'aide. Ici, dans les Hautes-Pyrénées, le groupe Pierre Labatte a besoin d'adultes qui ont déjà fait du scoutisme.
Pas forcément, parce que tout le monde peut nous rejoindre. Chacun est à sa place dans le mouvement.
Avec ou sans scoutisme sur son CV.
Avec ou sans scoutisme, on prend tout le monde. Et justement, ça peut être une force aussi de ne pas connaître le scoutisme, d'apporter son regard nouveau. Ce sera avec grand joie. Mais c'est la difficulté dans notre territoire à Tarbes, c'est qu'on n'est pas une ville étudiante. Nous sommes une ville où, en effet, nos chefs et cheftaines qui sont actuellement... qui encadrent nos jeunes, sont étudiants sur Toulouse, à Rodez.
Donc ils reviennent le week-end.
Ils reviennent les week-ends pour permettre à des jeunes de vivre du scoutisme. Eh oui. Ils rendent l'appareil, mais c'est pas viable à long terme. En plus, on rentre sur des années où on a eu de moins en moins de dons.
On pourrait imaginer, alors vous parlez de jeunes étudiants, ça peut être aussi des parents ou des jeunes professionnels.
Des jeunes professionnels.
Qui s'engagent dans le mouvement pour... vous aider et permettre à d'autres enfants de pouvoir être accueillis.
Oui, donc on a besoin de... Tout le monde a sa place dans le mouvement. Actuellement, on a des missions à pourvoir.
Aujourd'hui, il y a combien d'enfants ? Vous accueillez combien d'enfants ?
On accueille 90 enfants.
Donc là, vous êtes au maximum de votre effectif parce que vous n'avez pas assez de chefs.
On peut accueillir encore les plus grands, les 14-17 ans, mais on peut en accueillir deux. Il reste deux places.
Bon, alors parmi nos auditeurs, si quelqu'un se dit, moi je suis passionnée et je suis convaincue par ce que ont raconté Guillaume et Marion, comment on fait pour vous rejoindre et vous aider ?
Alors, moi je veux juste rebondir un petit peu parce que ce samedi 11 octobre, il y a les associations qui se mobilisent et qui, parce qu'il y a un grand panneau attention danger, moins de dons, il y a moins d'argent pour les
associations. Moins de subventions.
Alors, ça, il ne faut pas l'oublier, mais à petite échelle, on peut justement se mobiliser en venant donner son aide une journée, une demi-journée. En fait, on n'est pas au travail. Il n'y a pas un contrat où tu dois, t'arrives, ceci, cela. Toute bonne aide est bienvenue. Toute bonne volonté, je cherchais le mot, est venue. Il n'y a pas besoin d'attendre que les mobilisations parisiennes, on peut déjà se mobiliser à Tarbes.
Bien dit, Guillaume. Il y a un site internet, des coordonnées pour vous trouver.
Oui, il y a nos coordonnées sur le site internet des Scouts et Guides de France, donc notre groupe Pierre Labatte à Tarbes.
Sinon, on peut donner les coordonnées du site internet.
Donner nos coordonnées, donc c'est tarbes65sgdf@gmail.com.
tarbes65sgdf@gmail.com, c'est l'adresse mail pour vous contacter, pour vous rejoindre, pour vous aider.
Exactement.
Tout est dit. Merci beaucoup, Marion Planès, Guillaume Jaillet. Donc, je rappelle, Marion Planès, que vous êtes responsable du mouvement des scouts et guides de France dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Et Guillaume Jaillet, vous êtes engagé dans le mouvement, en particulier pour lancer ce groupe des audacieux dont vous nous avez parlé.
Exactement.
Un grand merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci.
Présence à Millau, 106.5.
Bonjour Anne Lasserre.
Bonjour Philippe.
Alors vous n'êtes pas venu avec le gyrophare et le deux-tons aujourd'hui.
Ah oui, j'aurais peut-être
pu. Vous auriez pu. Et on aurait dit, tiens, le SAMU arrive. Non. En fait, vous allez comprendre, chers amis auditeurs, pourquoi on parle de ça. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous amener dans le Lavedan en compagnie d'Anne-Marie Laringue. Alors quel est le dénominateur commun entre Anne-Marie Laringue et le SAMU?
Et voilà. Philippe, vous avez donné une piste. C'est que le nom de Laringue doit dire beaucoup à de nombreux auditeurs et surtout aux Toulousains, car le frère d'Anne-Marie, Louis Laringue, a créé le SAMU. Il est le fondateur, avec Madeleine Bertrand, du service d'aide médicale urgente, et le SAMU a été officialisé en 1940. 86.
Ben voilà, voilà. Et on salue donc la famille Larraine et vous l'avez dit, à Toulouse, bien sûr, il doit être très connu. On peut ajouter que Louis Larraine est né à côté de chez nous, à côté des studios au moins de Radio Présence à Lourdes, à Isacoste, en 1923, comme Jacques Chancel, qui est né lui aussi à Isacoste, 5 ans plus tard, à Isacoste et dans le Lavedan, non loin d'Argelès-Gazost.
Voilà, comme voilà, vous le dites.
C'est sur la route entre Lourdes et Argelès, voilà, à Isacoste.
Donc pas loin de nos studios. Et Anne-Marie Larraine, elle est née en 1937 et elle a écrit un petit ouvrage, Philippe, dans lequel elle raconte justement son enfance, sa jeunesse à Isacoste.
Vous l'avez rencontré à un salon du livre de Pierre Fitte. Pierre Fitte Nestala, c'est bien sûr. Alors là, on est après Argelès.
Oui.
Où elle dédicaçait son ouvrage. Eh bien, écoutez, Anne, on vous écoute.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Anne-Marie Larraine, d'une plume alerte, raconte dans un petit livre qui a pour titre « La petite fille d'Isaac » son enfance dans les Hautes-Pyrénées. Elle a 5 ans en 1942 quand commence ce récit et 72 ans quand elle évoque son enfance et sa jeunesse dans les Pyrénées. Elle est née à Pierrefitte, carrefour des vallées de Luz et de Cotteret. Mes parents, écrit Anne-Marie Larraine, tenait un magasin de bois et de charbon. Tous les jours, mon père partait avec sa camionnette livrée. Il m'emmenait quelquefois et j'étais heureuse. J'appréciais déjà ce contact avec les adultes. Il chantait beaucoup en conduisant. Il faisait partie de la troupe des choristes du théâtre de Tarbes. Il jouait aussi du saxophone. Déjà, à cet âge-là, il m'apprenait à chanter à deux voix en canon. Le soir, il me prenait sur ses genoux et nous chantions « De la Sainte Chapelle, écoutez cette voix. Nous sommes tous ses fidèles et chantons à pleine voix « Ding, ding, dong ». Les souvenirs des soirées d'hiver 42. Nous nous retrouvions près de la grande cuisinière noire pour nous réchauffer et écouter les histoires du village. Tous les soirs, une amie de maman, Odette, boulangère célibataire, venait. Avec maman, elle parlait beaucoup chiffon. Elles aimaient la couture. Elles étaient toutes deux très coquettes. Juillet 42, maman accouchait d'un petit frère, Pierre. Il était venu par avion, m'avait-on dit. Étant donné qu'il en passait souvent, rien d'étonnant. De Cotteret à Pierrefitte, le petit tramway desservait cette ligne. Il était très joli à regarder, mais j'entendais dire aussi qu'il était très dangereux, car la descente de la côte à l'entrée du village était trop rapide, jusqu'au jour où il a déraillé et s'est renversé en contrebas dans le terrain de gymnastique où ne se trouvait personne. Heureusement, un après-midi, Juliette et moi jouions dehors. Un bruit terrible se fit entendre. Le tram écrasait une voiture. Sur le moment, nous avons pensé à papa et Juliette, aussitôt par la peur, eut une jaunisse. C'était le médecin qui, par habitude de passer par là, a traversé et s'est fait tuer. Ce n'était pas le premier accident. Aussi, la ville trouva un nouveau moyen de transport de car, la Salte. Je reviens à parler d'Odette, car elle aussi m'amenait faire ses tournées avec sa voiture et son cheval. Pendant qu'elle parlait aux clientes, j'en profitais pour cueillir des fleurs pour ma mère. Et parfois, comme sa tournée était longue, elle me laissait chez ma grand-mère à Saint-Sauveur. Je n'aimais pas y aller. Il fallait toujours rester assise et la regarder travailler. Elle était pompiste. Les voitures qui passaient étaient belles. Elles étaient rares. Il me tardait qu'Odette revienne me chercher. La tournée pouvait durer 2 heures, plus les bavardages. Quand il neigeait, les chevaux avançaient plus difficilement. Et en route, nous prenions des gens. Tout le monde était joyeux. Ils se connaissaient tous, les conversations allaient bon train. Mais quand il faisait très froid, chacun se protégeait comme il pouvait. Nous avions des couvertures pour les jambes, pour les oreilles et le nez. Malgré nos écharpes et bonnets, on souffrait le martyre. Parfois, Odette arrêtait son attelage et buvait chez le client un café ou un grog brûlant, et moi, un chocolat à l'eau. Mais je trouvais tout cela merveilleux. Je me régalais d'admirer ces gorges du Gave de Pau, les petites cascades aux eaux vertes et claires. Mais souvent, en revenant des tournées, je m'endormais. Maman prend de grandes décisions. Moi et Juliette, nous partons chez ma grand-mère et chez ma tante à Isaac, à 9 kilomètres. Je ramasse tous mes chiffons, ma poupée, et me voilà chez grand-mère. Grand-mère était la mère de papa. Elle adorait son fils. Elle le trouvait bien physiquement, mais il avait du caractère, disait-elle. Sa fille Julia, ma tante, travaillait dans une pharmacie à Argelès. Toutes deux, elles étaient très vaillantes, très organisées. Déjà, avec elle vivait mon frère. Je dis bien mon frère, car il était le fils de papa qui avait été déjà veuf. Mais il nous aimait tellement que personnellement, je n'aimais pas dire demi-frère. Isaac, situé en retrait de la Nationale 10, se trouvait perché près des châtaigneraies, car, m'avait dit grand-mère, quand il était dans la plaine, il avait été ravagé par les eaux du Gave de Pau, donc il avait été reconstruit plus haut. Mon grand frère Louis, de 17 ans mon aîné, était en faculté de médecine à Toulouse. Il revenait le samedi soir et nous racontait sa vie étudiante, sa chambre où les punaises se promenaient sur le lit, la lumière fermée. Moi, je lui racontais ma vie scolaire. Nous étions 3 années ensemble, cours préparatoire, cours élémentaire, cours moyen. Ma grand-mère m'ayant appris à lire et à compter, j'étais en cours moyen à 8 ans. Même si ce temps n'est plus, on sent à quel point il est encore présent dans la mémoire d'Anne-Marie Laringue, qui n'est autre que la sœur de Louis Laringue, le fondateur du SAMU. Autant de souvenirs comme pourrait les conter un enfant, sans s'appesantir et en sautant d'un événement à un autre. Le passage retenu est extrait d'un livre écrit par Anne-Marie Laringue, intitulé « La petite fille d'Isaac », publié par les éditions Li 33 à Libourne.
Ah non, on ressent toujours beaucoup de nostalgie hein, quand les auteurs évoquent leur enfance dans les Pyrénées, même si cette enfance a lieu pendant des périodes de troubles.
Effectivement, parce que quand Anne-Marie Laringue évoque ses premiers souvenirs, elle a 5 ans, cela correspond à l'année 1942, donc en pleine Seconde Guerre mondiale.
Elle se souvient aussi de la fête des rameaux, de Pâques, quand elle a 9 ou 10 ans. Chaque maîtresse de maison, pour rameaux, pétrissait des gâteaux de toutes les formes, et les gâteaux étaient ensuite suspendus aux branches des rameaux.
Ça doit être beau. Et oui, ce sont effectivement des souvenirs qu'on ne peut pas oublier, Philippe.
Ouais, ouais.
On peut préciser donc que son frère, le professeur de médecine Louis Laringue, évoqué tout à l'heure, a été maire d'Isaac Ost, donc village dont il est natif. Il a été maire entre 1965 et 1977. Il a été aussi élu député, et je crois que c'est en 1981.
Très bien, mais voilà, une belle carrière. Et c'est lui qui a eu l'idée, lorsqu'il y a un grave accident de la route, de transporter en quelque sorte l'hôpital au pied du platane. C'est ainsi qu'est né le SAMU. Et je pense qu'à travers cette initiative, il a sûrement sauvé beaucoup de vies.
Voilà. Oui, ça, effectivement, j'en suis persuadé.
Merci
oui.
Donc à la famille Laringue. La semaine prochaine, nous irons à Notre-Dame de Garaison avec un écrivain irlandais qui est né au début du 19e siècle. Alors voilà, Garaison, c'est à côté de l'Almezan.
Oui.
Et c'est un Irlandais qui habite juste à côté, quoi. Qui parle de Notre-Dame de Garaison. Voilà. C'est l'auteur que vous avez sélectionné.
Pour la semaine prochaine.
Pour la semaine prochaine. Merci beaucoup, Anne Lasserre.
Au revoir, Philippe.
Au revoir.
be a little something. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort, give you a break from loving. I'm trying more than just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out.
Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping this focus.
Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. I'm we could keep it simple as la-di-da-di-da. We could keep it simple as don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. We could be a little something.
Radio Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
La persistance de la faim dans le monde est un échec collectif. Le pape Léon XIV a livré ce matin un plaidoyer pour le multilatéralisme.